Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette semaine, nous poursuivons notre discussion avec Bernard Michon et Jérôme Vilgaud, tous les deux maîtres de conférences en histoire à l'Université de Nantes et membres du CRHIA. Jérôme Vilgaud, vous êtes spécialiste de la Grèce ancienne et nous avons commencé la semaine dernière à évoquer l'esclavage au sein de cette civilisation au premier millénaire avant Jésus-Christ.
Parmi les publications de notre invité, je signale à nos auditeurs un ouvrage collectif, donc co-dirigé par Jérôme Vilgaud, intitulé « Parenté et société dans le monde grec, de l'Antiquité à l'âge moderne », publié aux éditions Ozonios à Bordeaux. Et je signale que dans ce recueil, plusieurs articles évoquent la question de l'esclavage.
Merci Bernard. Dans l'émission précédente, vous aviez évoqué le fait que les esclaves et les hommes libres se côtoient à travers diverses tâches. Quels sont les moyens pour les Grecs d'obtenir des esclaves à cette époque ?
Alors ces moyens sont très divers en fait. Évidemment, il y a la guerre par exemple, et donc la capture de prisonniers. Bon, il y a le rapt, l'enlèvement. Il y a l'endettement, c'est-à-dire qu'en fait des individus peuvent s'endetter par rapport à d'autres et à ce moment-là devenir leur esclave, au moins de manière temporaire, le temps de rembourser en fait justement leur dette. Un individu, bien sûr, peut naître esclave au sein d'une famille. Et puis, bien sûr, donc, il y a un commerce des esclaves. Donc, on peut vendre et acheter donc, des esclaves.
Alors, est-ce qu'on peut parler de traite des esclaves dans le monde grec, tel qu'on nous l'avons évoqué précédemment dans nos émissions sur la traite négrière ?
Alors, ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il existait donc un commerce d'esclaves. Il existait des réseaux organisés en fait pour donc ce commerce. Il y avait des régions qui fournissaient donc plus particulièrement des esclaves en fait au monde grec, en particulier donc par exemple la Turquie actuelle, donc l'Anatolie, ou on va dire de manière générale en fait toutes les régions périphériques en fait au monde grec, donc les peuples barbares. Mais cela dit, il ne faut pas imaginer un commerce aussi organisé en fait hein, qu'à l'époque moderne. C'est avant tout la guerre qui procurait des esclaves. Et par conséquent, évidemment, il y a une sorte quand même malgré tout de dimension assez aléatoire dans ce recrutement. Et en fait, n'importe qui peut du jour au lendemain se retrouver esclave. En fait, on sait par exemple que lors d'un épisode assez fameux, en fait, le philosophe Platon lui-même a été vendu comme esclave donc, et a dû se racheter.
Alors Jérôme Vilgaud, dans la Grèce ancienne, les ilotes représentent une population très particulière. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Voilà, jusqu'à présent, en fait, nous avons parlé avant tout donc, des esclaves marchandises, de ceux que l'on pouvait donc acheter et vendre. En fait, dans un certain nombre de régions, comme d'ailleurs dans d'autres régions de Méditerranée, on trouvait des populations donc serviles que l'on appelle aujourd'hui donc en français en fait des dépendants ruraux. C'est-à-dire qu'en fait que c'était des populations qui étaient dans une relation de dépendance, bon, de servitude à l'égard donc des citoyens, donc en l'occurrence donc des citoyens spartiates, qui avaient pour fonction principale donc de cultiver la terre, hein, donc dans ce cadre rural, mais qui en fait avaient beaucoup plus de droits que les esclaves marchandises. Les esclaves marchandises, par définition, n'ont aucun droit, ils n'ont aucune personnalité juridique. Par contre, les ilotes avaient des droits, ils pouvaient vivre en famille, ils avaient une vie familiale, ils cultivaient la terre et pouvaient conserver en fait une partie des productions pour leur propre consommation. Ils avaient en fait leur propre culte religieux, ils avaient leur propre organisation, si ce n'est qu'ils étaient donc sous la dépendance donc des citoyens spartiates. Alors d'où proviennent ces ilotes ? Quelle est leur origine ? Certains pensent qu'en fait qu'ils proviennent d'une conquête, en fait ce sont des populations qui ont été conquises par les spartiates. C'est tout à fait possible pour la plupart d'entre eux. Certains aussi en fait ont pu devenir ilotes au fil donc du temps par endettement par exemple hein, ou à la suite en fait d'une déchéance civique. Un point qui est important, hein, je pense qu'on n'a pas je n'ai pas insisté sur ce fait en fait depuis le début de l'émission, c'est que l'on a affaire à une société statutaire où en fait donc vraiment ce qui différencie les individus au sein de cette société sont les statuts, c'est-à-dire un ensemble de droits et de devoirs. Donc au sommet de la pyramide, vous avez les citoyens, qui possèdent tous les droits, on va dire, et bien sûr, à la base de la pyramide, vous avez les esclaves qui ne possèdent aucun droit. Les ilotes sont dans une situation, je dirais, supérieure à celle des esclaves marchandises, dans le sens où, malgré tout, hein, ils sont protégés.
Peut-on les situer par rapport aux populations que l'on appelle les métèques ?
Alors, vous avez donc, en grosso modo, dans chaque cité, trois grandes catégories. Vous avez donc les citoyens, vous avez les étrangers qui sont résidents et vous avez en fait donc les esclaves, selon donc leurs différentes appellations. À Athènes, vous avez donc citoyens, métèques, esclaves marchandises. Les métèques, donc, ce sont donc les étrangers résidents. À Sparte, vous n'avez pratiquement pas d'étrangers qui résident dans la cité, parce que c'est une cité qui est fermée. Par contre, vous aviez des hommes libres qui vivaient là, et donc qui étaient libres, qui n'étaient pas esclaves, mais qui n'étaient pas citoyens. Et donc ceux-là, on les appelle les périèques, c'est-à-dire ceux qui vivent autour, en fait, donc, des citoyens.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Bernard Michon et Jérôme Vilgaud. Jérôme Vilgaud, est-ce que vous pouvez nous dire comment sont généralement représentés les esclaves ?
Alors il faut, pour répondre à votre question, préciser que l'un des termes qui désigne donc les esclaves dans le monde grec, c'est le terme païs. Et le terme païs, en fait, désigne l'enfant. C'est-à-dire que, évidemment, désigner un esclave par le terme d'enfant, c'est souligner donc son infériorité, sa condition inférieure. Et ce que l'on voit en fait dans l'iconographie en fait, du monde grec, c'est que très souvent donc, on a des personnages qui sont visiblement des adultes, mais qui sont représentés plus petits que les citoyens. Et en fait, ces personnages, ce sont les esclaves, hein, qui sont représentés justement dans, de manière donc, graphique, hein, iconographique, donc dans leur infériorité. Alors très souvent, ils ont les cheveux courts, les cheveux ras, parce que les cheveux longs dans le monde grec est un signe de liberté, donc c'est le propre des hommes libres, des citoyens. Très souvent également, ils sont très peu vêtus, par exemple, revêtus simplement d'un pagne, hein, puisque là encore, donc vous savez, là on est dans une culture du drapé, on est recouvert d'un manteau, hein, etc., donc d'un chiton, d'une tunique, mais ce manteau, cette tunique avant tout, c'est le propre des citoyens. Voilà. Alors, cela dit, il est très difficile en fait, hein, souvent, de différencier comme cela hein, donc les personnages dans une scène, par exemple, dans une peinture sur vase, parce qu'un adolescent libre et un esclave peuvent en fait être représentés de manière assez semblable.
Et quelles sont les utilisations du corps des esclaves qui...
Alors, vous utilisez donc le terme de corps des esclaves, hein, cette expression, mais en fait, c'est tout à fait juste. Hein, voilà, des corps des esclaves, parce que l'émission précédente, on l'a vu avec donc, le texte hein, qui a été lu par Bernard Michon. Aristote parle d'instruments animés, en fait, hein, pour parler des esclaves. Alors, l'esclave, par nature, en fait, c'est un être qui, précisément, est réduit à son corps. C'est un corps animé, c'est un corps qui agit, qui est un corps qui travaille. C'est un corps, donc, que le maître fait travailler. Et si l'esclave commet une faute, eh bien, il sera puni par son corps. Donc, il sera fouetté, hein, par exemple. ou bien si l'on doit interroger en fait un esclave dans le cadre d'un procès, systématiquement, même si lui-même en fait veut dire la vérité, il sera torturé. C'est-à-dire que, en fait, le message est très simple. Les Grecs le disent explicitement. La torture, c'est le corps que l'on fait parler. Il faut faire parler le corps des esclaves. Et en fait, encore une fois, ces esclaves sont réduits à leur corps.
Opposé à l'esprit des hommes libres ?
Tout à fait. C'est ce que dit Aristote, justement. Donc, les citoyens, c'est l'âme. Et c'est eux qui possèdent, en fait, justement, l'intelligence, la maîtrise, permettant, en fait, à l'esclave, donc, par nature inférieure, par nature, donc, évidemment, par définition barbare, en fait, donc, c'est ce citoyen qui a la capacité, en fait, l'aptitude à commander, à diriger l'esclave et à lui dire ce qu'il doit faire.
Jérôme Vigo, le corps de l'esclave, vous venez de l'expliquer, est un corps souffrant. Cela peut même aller jusqu'à la castration. Était-elle pratiquée dans le monde grec ?
Alors, cette castration, on la trouve évoquée surtout en fait en Orient, où on la trouve évoquée plus tard, par exemple, à Byzance. Mais elle est très rare, en fait, aux périodes dont nous parlons, par exemple, à la période classique, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir que les Grecs, en fait, accordaient beaucoup d'importance à l'intégrité physique et considéraient la castration comme une pratique barbare. Et donc, eux-mêmes ne la pratiquaient pas, même à l'égard des esclaves. Alors, cela dit, elle est parfois attestée dans nos sources, mais dans des cadres très restreints et souvent dans un contexte religieux. C'est dans le cadre de certaines divinités, de certains cultes, que les prêtres, en fait, donc, étaient castrés. Mais encore une fois, c'est vraiment, surtout à l'époque classique, considéré comme barbare, etc. Alors, par contre, ce que l'on peut dire, c'est que l'une des marques de l'esclavage, c'est le tatouage. Un corps tatoué, dans le monde grec, c'est un corps d'esclave. Parce que, très souvent, donc, lorsqu'un esclave, en fait, s'enfuyait, eh bien, lorsqu'on le récupérait, eh bien, il était tatoué pour bien montrer d'une part que c'était un esclave, un corps tatoué c'est un corps servile, et puis pour montrer donc qu'il s'était déjà au moins enfui au moins une fois, et donc il fallait donc le surveiller donc de près. Je tiens justement, je peux ajouter à cette occasion que, parce que là je parle des fuites, c'est à peu près donc la seule possibilité pour un esclave évidemment d'échapper à sa condition, à moins qu'il ne se rachète. Et il faut bien préciser que dans le monde grec en fait on n'a pas connu de révolte d'esclaves comme on a pu en connaître dans le monde romain. Tout le monde connaît Spartacus. Bon, là, ce sont des révoltes dans le monde romain, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a aucun exemple équivalent dans le monde grec. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces esclaves, pour la plupart d'entre eux, étaient dispersés, donc évidemment, ne parlaient pas la même langue, n'avaient aucune homogénéité, étaient dispersés donc, dans la société, en fait, donc n'avaient pas les moyens, donc collectivement, en fait, de lutter contre les Grecs. Alors que par contre, dans le monde romain, on va avoir des grands domaines fonciers, des grandes exploitations agricoles, où là, donc, des centaines, voire des milliers donc, d'esclaves vont se retrouver, et donc là, vont pouvoir agir collectivement.
Jérôme Vilgo, merci de votre participation. Bernard Michon se retrouve la semaine prochaine, et nous allons aborder l'esclavage dans le monde romain avec Thierry Piel. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous écoutent, et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.